Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 10 décembre 2021. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique, nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de démocratie. À l'invitation du président américain Joe Biden, les représentants d'une centaine de gouvernements, d'entreprises et d'organisations de la société civile se sont retrouvés cette semaine à Washington pour un sommet virtuel sur la démocratie. La démocratie dans le monde est confrontée à des défis importants et inquiétants, a dit Joe Biden à l'ouverture du sommet. La Maison-Blanche soutient en effet que la démocratie et les droits de l'homme sont menacés partout dans le monde. Les démocraties, qu'elles soient en transition ou établies depuis des décennies, sont confrontés à de sérieux défis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières. La méfiance du public et l'incapacité des gouvernements à réaliser des progrès économiques et politiques équitables et durables ont alimenté la polarisation politique et la montée en puissance des dirigeants qui sapent les normes et les institutions démocratiques. Autant dire que la démocratie a du mal à s'implanter dans beaucoup de pays. Et pour parler de démocratie et de ce sommet virtuel au cours des prochaines minutes, nous avons comme invité ici à Washington, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Ambassadeur Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Nous avons le privilège d'avoir avec nous ce soir l'une des participantes à ce sommet virtuel sur la démocratie. Il s'agit de Rebecca Enonchong, fondatrice associée et PDG de Abstech. Rebecca Enonchong, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Ravi de vous avoir dans l'Amérique et vous. Idriss Fall, qu'on ne présente plus, est rédacteur en chef à La Voix de l'Amérique, service francophone. Idriss Fall, bonjour.
Bonsoir John et bonsoir aux auditeurs de La Voix de l'Amérique.
Alors, merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Rebecca Enonchong. On le disait tantôt, vous avez été invitée à participer à ce sommet virtuel sur la démocratie. Déjà, quel est votre sentiment? Et dites-nous également, quelle est l'ambiance qui s'est dégagée tout au long des travaux?
Je pense d'abord que les participants étaient tous très contents que cette conversation ait lieu à un niveau aussi élevé. Et donc que des acteurs, pas seulement politiques, mais de la société civile, du secteur privé, soient conviés à une discussion, justement parce que la démocratie ne concerne pas seulement les politiques et les diplomates, mais aussi la société civile et le secteur privé. Et donc j'étais vraiment, je pense que c'était justement cette conversation et le fait qu'on soit inclus dans cette conversation qui est à très haut niveau, ça a été un point très positif.
Ambassadeur Cohen, qu'est-ce qui, selon vous, justifie l'organisation de ce sommet par Joe Biden? Est-ce, comme certains le disent, une réaction à la zone de turbulence que traverse la démocratie américaine, notamment avec les accusations de fraude évoquées par Donald Trump lors de la dernière présidentielle?
Oui, bien sûr. Je crois que le président Biden avait une raison pour la politique intérieure d'organiser ce sommet. L'élection présidentielle de l'année 2020, selon tous les experts, n'était pas faite. C'était bien déroulé et les résultats étaient très honnêtes. Mais le candidat qui a perdu, M. Trump, a refusé d'accepter le résultat. Et accepter le résultat d'une élection démocratique, c'est le plus important élément dans la démocratie. Si les gens perdent l'élection et refusent d'accepter le résultat, c'est la fin de la démocratie. Donc, pour Joe Biden, le problème, l'objectif antérieure des États-Unis était la vraie raison pour organiser ce sommet.
Idriss Fall, on se serait attendu qu'en pleine crise de COVID-19, que le président américain organise plutôt un sommet mondial, par exemple, sur comment vaincre cette pandémie et relancer les économies. Mais Joe Biden a choisi un sommet sur la démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de ce sommet et pourquoi un sommet sur la démocratie, selon vous?
John, je crois que M. Herman Cohen l'a bien expliqué clairement. C'est-à-dire qu'ici, aux États-Unis, la démocratie américaine a été fortement secouée par M. Donald Trump et même ses compagnons ou partisans qui ont lancé cet assaut le 6 janvier 2020 pour empêcher la certification de la victoire de M. Biden. Donc ça fait déjà comme une sorte de tremblement de terre à l'intérieur du grand temple de la démocratie que représentent les États-Unis. Et ça arrive aussi au moment où, qu'on le veuille ou non, M. Biden, il traîne dans les sondages, c'est-à-dire que sa cote de popularité est vraiment par terre à cause de la situation de l'économie, à cause de l'inflation, et que, bon, voilà, il y a eu quelques tests, les élections, là, les républicains sont revenus reprendre la Virginie, parce qu'au plan de il a un besoin de politique intérieure. Au plan extérieur, tu as la Chine, la Russie de M. Poutine, bon, voilà, tout le monde sait comment ça marche là-bas depuis des décennies. Il n'a jamais même été question de démocratie. Chacun est venu à faire des affirmations d'une volonté de ce qu'il pourrait faire chez lui. Tshisekedi et Félix de RDC est venu dire que lui, il a un gros problème avec la corruption dans son pays et voici ce qu'il va faire pour régler ça. Ça ne veut pas dire que ce sera fait ça ne veut pas dire qu'il va réussir. Donc c'était un exercice, bon voilà, et que nous, les médias, on est tenus de rapporter.
Rebecca Enonchon, s'il y a un outil qui participe à la promotion de la démocratie, c'est bien sûr Internet. Mais Internet, il permet à des personnes de s'exprimer, mais de plus en plus, on observe de nombreuses dérives sur Internet, désinformation, diffamation, et puis il y a les fake news. Comment concilier l'importance d'Internet dans la promotion de la démocratie et en même temps combattre la désinformation?
En fait, je pense que cette vision des choses, elle vient surtout des personnes qui utilisent l'Internet comme outil de répression. C'est-à-dire, on utilise le prétexte qu'il y a des fausses informations pour maintenant couper l'Internet ou pour censurer les réseaux sociaux. Je pense que la réalité est que l'Internet est un très, très grand atout, que l'accès à l'Internet est un droit de l'homme. L'Internet doit être plus accessible, non seulement en termes de disponibilité, mais en termes de coût. Parce qu'on a vu pendant la pandémie, justement, qu'on a pu continuer des cours, on a pu continuer les activités économiques grâce à l'outil Internet. Et je pense qu'on n'en parle pas assez, et comme on en a parlé pendant notre panel pendant le sommet, on trouve que, par exemple, les lois sur la cybercriminalité, qui justement devraient gérer les problèmes de désinformation, de diffamation, sont plutôt utilisées comme outil de répression et pour s'attaquer à des personnes qui vont parler contre un gouvernement ou autre. Et donc, malheureusement, les outils qui existent, les outils juridiques qui existent pour réguler un peu ces abus d'Internet ne sont pas utilisés dans le sens de l'équilibre, mais plutôt pour censurer certains avis.
Ambassadeur Cohen, Rebecca Enonchon le disait tout à l'heure, parfois Internet est utilisé par les populations pour exprimer soit leur désaccord dans certains pays, mais très souvent aussi, Internet est coupé et ça se voit fréquemment en Afrique. Comment expliquer cela?
Oui, c'est vrai, quand il y a un coup d'État, par exemple, en Afrique, même dans cette année, il y avait plusieurs coups d'État au Mali, au Tchad, n'est-ce pas, au Soudan. Et dès que des militaires prennent le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de couper l'Internet. Comme ça, les gens qui sont contre les coups d'État ne peuvent pas s'organiser pour protester contre le coup d'État. Donc, l'Internet est très important. Aussi pour la pandémie, par exemple. Pendant la pandémie aux États-Unis, il fallait fermer les écoles. On ne peut pas envoyer un élève à l'école pour attraper la maladie. Donc, il fallait qu'il fasse ses devoirs à l'Internet, en contact avec le professeur. Donc, s'il n'y a pas d'Internet, c'est très mauvais. J'ai lu dans un journal qui est dans une certaine région des États-Unis où l'Internet n'existe pas, donc dans les maisons. Donc, un élève était obligé d'aller dans le parking d'un grand magasin pour voir l'Internet et pour faire ses devoirs. Et c'est pourquoi le président Biden, dans un projet de loi qui est sous débat par le Parlement américain maintenant, a donné beaucoup d'argent, voudrait donner beaucoup d'argent pour faire Internet partout, pour toute la population des États-Unis, parce que maintenant, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité de faire beaucoup de choses maintenant, pour les affaires et pour les écoles et pour beaucoup d'autres choses.
Idriss Fall, on a comme impression qu'il y a une espèce de concurrence entre les médias traditionnels et Internet en termes de diffusion de l'information. Sauf que sur Internet, on parle plus de fake news. Comment différencier l'information sur Internet aujourd'hui?
Je pense que c'est un casse-tête hein, pour tous les gouvernements. Les médias dits traditionnels, s'ils respectent leur ligne de conduite, ils ne peuvent pas mettre sur les ondes ou écrire des informations qui ne sont pas vérifiées. Donc, c'était ça qui a constitué leur force. Mais maintenant, avec l'arrivée de ce que vous appelez les médias sociaux ou les réseaux sociaux, moi, je prends des exemples seulement sur ma propre fille, qui me dit « Papa, je l'ai lu sur Facebook ». Je lui dis « Mais tu l'as lu sur Facebook, ça ne signifie pas que c'est vrai ». Il me dit « Mais si ». Et que moi, j'ai toutes mes informations sur Facebook. Je dis, donc, c'est un niveau où tu ne peux pas discuter parce que tu as une génération qui est là, qui reçoit tout ce que tu veux avec des images, des photos sur Facebook, Instagram, Twitter et que rien ne peut être vérifié. Donc, et que maintenant, comme c'est le monde de la vidéo, moi, je prends une image que je poste sur Internet et j'ai dit au monde que oui, ça s'est passé au Sénégal, on a brûlé des gens vivants, mais ça va être reproduit par tout le monde, sans même vérifier, savoir est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc il y a cette difficulté-là qui est là et même qui est en train d'empiéter parce que les médias traditionnels comme nous, on est de plus en plus bousculés par ce nouveau phénomène qu'on appelle des médias sociaux où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fake news. Et a même amené M. Mark Zuckerberg et Facebook à vouloir changer de nom. Donc, je ne sais pas, c'est un phénomène lié aussi à Internet. C'est un phénomène qui est lié à Internet. Et les médias traditionnels, donc, ont perdu du terrain, mais ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, par exemple, pour consolider la démocratie. Et moi, je suis heureux que dans beaucoup de pays africains, les gens écoutent encore la radio comme moyen d'information principal parce que beaucoup de pays africains n'ont pas d'électricité. Beaucoup de pays africains, dès que tu sors des grandes villes, tu n'as pas accès à Internet, c'est connu. Donc, il y a une certaine population là-bas qui est encore protégée. Mais pour combien de temps? Parce que les téléphones cellulaires, c'est le produit le plus vendu actuellement sur l'ensemble du continent. Même le conducteur de charrette à Dakar, il a son téléphone cellulaire.
Rebecca Enonchon, revenons au sommet virtuel sur la démocratie. Quand on regarde la liste des dirigeants du monde aujourd'hui, on voit très peu de femmes. Pourtant, elles sont souvent de ferventes militantes des partis politiques, notamment en Afrique, des militantes à la base. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour avoir plus de femmes présidentes plus de femmes présidentes d'Assemblée nationale, plus de femmes avocates, et j'en oublie certainement.
Je pense que dans beaucoup de pays, les seuls ministères qui sont attribués aux femmes, surtout en fait en Afrique et même ailleurs, sont ministres des Affaires sociales, ministres des femmes, par exemple, parfois de la jeunesse, et non des grands ministères. Je pense qu'on doit construire ces leaders et donner de l'expérience. Et donc, ça veut dire qu'à toute échelle, à tout niveau, dans toute organisation, il faut nommer des femmes et il faut que ce soit un effort qui soit conscient. C'est-à-dire qu'on prenne vraiment conscience du fait que, et je le vois tout le temps, on a toujours des manors, ce qu'on appelle des manors en Afrique, où on va avoir tout un panel, toute une discussion et aucune femme. Et donc, à chaque niveau et à chaque échelle, il faut que les dirigeants et les décideurs fassent un choix conscient de dire que, est-ce qu'on a inclus les femmes ? Et le plus on va avoir de femmes, le plus on va normaliser les femmes dans des positions de leadership. Je pense que c'est ce qui nous amènera à avoir beaucoup plus de femmes visibles dans la politique.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique. L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Ambassadeur Cohen, plusieurs pays ont été exclus de ce sommet virtuel sur la démocratie. Il y a notamment la Chine et la Russie qui ont d'ailleurs fustigé leur exclusion. Comment les États-Unis, qui parlent de démocratie, peuvent en même temps exclure certains acteurs du débat démocratique?
Écoutez, moi je suis un peu déçu qu'ils n'ont pas invité la Chine et la Russie parce que ces deux pays sont certainement antidémocratiques. Dans ces pays, il n'y a pas la liberté de parole. Si quelqu'un dit quelque chose qui est anti-gouvernement, anti-régime, ils vont en prison tout de suite ou ils sont mis en cachette. Par exemple, en Chine, il y avait la championne du monde de tennis, Peng Shuai, qui a dit en public que j'ai été attaqué sexuellement par un des ministres chinois. Tout de suite, elle a disparu du monde. Elle était quelque part dans le paysage. Personne ne l'a vu parce que dans ce pays-là, il n'y a pas de liberté de parole. Il n'y a pas de liberté de quoi que ce soit. Donc, à mon avis, il fallait les inviter pour qu'ils apprennent qu'il y a des pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui font beaucoup de progrès pour la démocratie. Et ils se vantent, la Russie et la Chine. Notre système antidémocratique, c'est bien pour la population sur le plan économique, etc. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens souffrent en Russie. L'économie de la Russie est moins grande que l'Italie, qui est la Russie est 10 fois plus grand que l'Italie, mais ils ont le même GDP que l'Italie. Donc, il fallait les inviter pour qu'ils apprennent que la démocratie est une bonne chose.
Idriss Fall, vu sur l'angle africain,
on est reparti en arrière, loin, loin, loin derrière. L'image de tous ces coups d'État à répétition là, qui sont passés, et j'avoue que pour certains cas, on pourrait comprendre comme l'éventuel troisième mandat de M. Alpha Condé en Guinée ou bon, le décès subi de M. Idriss Déby Itno qui était là depuis ad vitam aeternam, qui a changé les constitutions du Tchad autant de fois qu'il voulait et qui est mort même au pouvoir et que c'est un de ses anciens ministres des Affaires étrangères qui dirige la commission de l'Union africaine, je ne veux pas citer de nom, le coup d'État en Guinée, donc il y a un recul démocratique. Je ne parle même pas des pays comme la République du Congo-Brazzaville, où M. Denis Sassou Nguesso est là-bas depuis, je ne sais pas, bientôt deux générations. C'est pareil pour la Guinée équatoriale. J'en passe.
Voilà, on va faire un dernier tour de table, une question pour chacun de vous. Rebecca Enonchon, votre expérience de la démocratie en Afrique, on sait que vous avez eu quelques soucis récemment au Cameroun. Qu'est-ce que vous pouvez en dire?
Je pense que, comme il a été dit, on a eu beaucoup de recul. Il y a eu beaucoup de recul, je veux dire, même ces dernières années. Et on le voit à chaque fois qu'il y a des élections, à chaque fois qu'il y a un souci. Regardez au Burkina Faso récemment, ils ont coupé l'Internet mobile. En fait, pour empêcher à la population de s'exprimer. Et je trouve que pour un pays comme le Burkina, pour lequel on a eu tellement d'espoir, je pense que les faits comme ça sont extrêmement décevants. Extrêmement décevants parce que c'est un pays quand même, nous pensions que c'était un des pays où on allait voir des avancées dans la démocratie. Donc je pense que vraiment, malheureusement, il y a beaucoup de recul. Je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis nous a aussi fait reculer. Et étant donné que les gens se comparaient aux États-Unis, que oui, même aux États-Unis, même Trump, etc., et donc, ça a donné un prétexte pour certains dirigeants de faire de poser des actes antidémocratiques.
Je dois attirer l'attention des auditeurs sur la situation urgente au Bénin. En 1991, la plupart des pays africains ont abandonné le système de parti unique. Ils ont adopté le système de multipartisme. Et Bénin était en tête, était le premier pays africain d'adopter multipartisme. Maintenant, le Bénin est en danger parce que le président actuel est en train de glisser vers le dictateur. Et j'espère que tout le monde va faire pression sur...
Idriss Fall, 424 millions de dollars dans le monde pour soutenir les médias indépendants. Un mot?
Non, c'est très bien. Peut-être même que je vais aller me porter garant pour créer un journal indépendant en Afrique. Mais je voudrais appuyer l'ambassadeur Cohen sur vraiment le Bénin, c'est apeurant, parce que Riki Amadougou, son procès commence aujourd'hui, et cette semaine, Joël Aïvo a été condamné à 10 ans de prison. Le Bénin, qui a été cité comme modèle de démocratie, même pas à un moment donné, avait pris la tête devant le Sénégal, et qu'on en arrive là. Bon, ça, c'est apeurant, quoi. Ça fait peur. Et je n'entends personne élever la voix. Ni les États-Unis qui organisent ce fameux forum, ni la France. Je n'entends personne élever la voix contre les arrestations et l'opposition béninoise qui partit en exil. C'est toujours comme ça, le médecin après la mort.
Vraiment, je pense que on va rester optimiste. Nous avons, comme au Bénin, on a aussi reculé, vous savez, au Cameroun. Juste avant-hier, il y a eu des condamnations de plusieurs années de prison ferme pour des jeunes qui avaient marché pour leurs droits, et c'était leur droit de le faire. Mais ceci, plein de jeunes ont été condamnés à des années de prison ferme par un tribunal militaire. Et je pense que, justement, c'est encore un exemple antidémocratique. Nous espérons vraiment. Mais on garde espoir. Moi, j'ai crois en la jeunesse africaine, et je pense que cette jeunesse va transformer le continent.
Et c'est avec cet espoir qu'on va mettre fin à cette édition de l'Amérique et vous présentée par John Linden. Production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.